Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Eh bien, bonjour à tous, chers amis auditeurs. Vous êtes bien dans les arènes de l'écologie. Alors, cette semaine, une fois n'est pas coutume, on va peut-être pouvoir répondre à la question, puisque notre invité va pouvoir nous dire combien de temps encore durera la biodiversité. Alors, de la biodiversité à l'humanité, il n'y a qu'un pas. Gilles Escarguel, paléontologue, tu vas peut-être pouvoir répondre à cette question qu'on pose maintenant depuis 60 fois, depuis que la création des arènes de l'écologie, il y a bien en novembre 2025. Donc voilà, mais bon, tu n'es pas le seul à autour des micros. On a Soraya
de Vito.
Hein ?
Bonsoir.
Voilà, donc Soraya qui est artiste peintre. Et puis donne-moi le nom complet.
Artiste peintre plasticienne.
Voilà. Et puis Lucas Hérault qui est lui, alors. Artiste spectacle vivant, pour faire simple. Alors, il y a toute une galerie de fonctions. T'es metteur en scène, t'es danseur, t'es comédien et t'es aussi chanteur. L'autre fois, je t'ai entendu du chanter, en tout cas dans ta pièce.
J'ai poussé la chansonnette.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas ta fonction première. Donc, alors, ce sera nos deux émerveillés avec Charlotte qui est donc elle, alors qui fait partie de l'équipe des Arènes de l'écologie. Mais c'est la première fois qu'elle est dans le studio.
Bonsoir.
Bonjour Charlotte.
Bonsoir.
Voilà. Alors Charlotte, elle est artiste, c'est une jeune journaliste, on va dire. Donc voilà. Donc on va bientôt lancer notre fameux récit de biodiversité avec Gilles. Mais avant ça, on aura naturellement notre petite bonne nouvelle de la semaine que Théo nous a concoctée et qu'on va lancer presque tout de suite.
Et oui, bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de notre bonne nouvelle de la semaine. Et ce soir, on va parler des éléphants d'Afrique, puisque la semaine dernière, une nouvelle assez symbolique nous est parvenue. Après 20 ans de disparition, des centaines d'éléphants sont de retour dans le plus ancien parc d'Afrique, celui des Virunga en Ouganda. Et comme je le disais, c'est un retour assez symbolique, puisque les 3000 éléphants qui vivaient dans le parc dans les années 90 ont pratiquement tous été tués par le braconnage. Or, les mesures de préservation en place aujourd'hui permettent à l'espèce de revenir sur ses terres, et ainsi, début avril, c'est pas moins de 480 éléphants qui retraversaient la frontière du parc. Et d'ailleurs, plus largement, à l'échelle du continent, on voit une certaine dynamique se mettre en place favorable à l'espèce. En effet, après un pic de braconnage dans les années 2010, de nombreux pays ont renforcé leurs mesures anti-braconnage et plus globalement de protection de la biodiversité, et même si aucune tendance globale ne se dégage encore à l'échelle du continent, on voit les premiers résultats encourageants un peu partout. D'abord, le braconnage a diminué durablement dans plusieurs régions, comme l'Afrique de l'Est ou l'Afrique australe, notamment grâce à la surveillance des zones protégées, mais aussi à l'effondrement du prix de l'ivoire depuis plusieurs années. Et les résultats de cette baisse de la pression humaine, ils sont concrets. Par exemple, en 2024 et 2025, les scientifiques ont observé au Kenya le retour de super hordes, c'est-à-dire des groupes d'éléphants de plus de 50 individus et parfois jusqu'à plusieurs centaines. Et d'ailleurs, ce genre de groupes sont en réalité un comportement naturel chez les éléphants, mais une fois encore, on n'en avait plus vu depuis plus de 40 ans dans cette région, notamment à cause du braconnage. Alors il faut tout de même nuancer ce retour des éléphants, hein. En réalité le braconnage existe encore et certaines régions sont encore très touchées, notamment l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale où les mesures de conservation sont beaucoup moins développées. Néanmoins, on constate que quand des mesures effectives sont mises en place, on voit une hausse locale des populations. Par exemple, le parc de Luangwa-Zambèze en Zambie est passé en 40 ans de moins de 1000 individus à plus de 15 000 aujourd'hui, ce qui montre que les efforts de conservation payent sur le long terme. Et si j'ai consacré cette chronique aux éléphants, il faut savoir que ce genre de retour d'espèces, de reprise des populations, il y en a des centaines à travers l'Afrique et à travers le monde. Ça doit pas nous faire oublier qu'énormément d'espèces sont encore en danger, mais ça montre que le déclin est loin d'être fatal, et ça c'est quand même une super nouvelle. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine.
Eh bien, merci Théo. Oui, effectivement, c'est une très bonne nouvelle et on va pouvoir en parler parce que ça fera aussi partie du récit de Gilles. Alors, mais avant ça, bon, oui, donc je vous prie d'excuser Ben. Il s'est fait une luxation de la cheville la semaine dernière lors du marathon de Paris. Et donc, il peut pas être là ce soir. Mais bon, il reviendra la semaine prochaine. Bon, moi, je vais vous faire, comme d'habitude, le point sur l'agenda de la ministre, qu'est-ce qui s'est passé à les nouvelles de Roquelaure. Alors, cette semaine, je dirais qu'il y a deux points qui m'ont intéressé. Bon, il y a déjà des vont discuter avec le ministre japonais de l'environnement, donc Hirotaka Ishihara. Donc c'est déjà bien qu'on puisse converser avec le Japon. Mais aussi, elle a remis la Légion d'honneur à Madame Julia Marton Lefebvre. Eh bien, écoutez, je ne connaissais absolument pas cette dame, mais donc j'ai été faire un petit coup de Google pour savoir, en savoir plus. Eh bien, c'est quelqu'un qu'elle a connu à l'UICN, et manifestement, c'est une référence en la matière de conservation. Donc, c'est pas mal que des gens très impliqués dans le monde de l'environnement, de la conservation soient récompensés de la Légion d'honneur. Ça nous change des militaires. Et puis, bon, je vous passe les habituelles conversations avec ses ministres, avec ses anciens ministres, etc., pour vous dire qu'aujourd'hui, c'était loin d'être inintéressant. Elle a inauguré la plénière de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Alors, c'est encore un truc, hein, une espèce de mille et une commission sur l'environnement, mais c'était intéressant, c'était sur la préparation de la loi sur l'eau, et effectivement on peut suivre, je me suis aperçu qu'on pouvait suivre les débats de l'Assemblée nationale, alors non pas en plénière, où là ça s'invective à qui mieux, mais effectivement dans les commissions, je recommande à tout le monde d'aller suivre ça une fois de temps en temps. Je pense que ça fait partie de l'éducation citoyenne, et on y apprend des choses. Bon, il faut avoir le temps aussi de se caler devant son ordinateur, mais peut-être que Soraya, en peignant, tu peux peut-être un coup, de temps en temps, écouter la commission.
Pourquoi pas du
Mais bon, je vais pas vous en... On va pas rallonger la conversation sur le sujet. On regardera l'agenda de la ministre la semaine prochaine. Et on va commencer, parce que tout le monde se languit de savoir qu'est-ce qu'il va nous raconter, Gilles. Alors Gilles, il vient nous raconter des histoires de fossiles, mais bon... Donc on va lancer la musique d'introduction, et puis on lui donnera la parole dans 2 minutes à peu près. Écoutez bien.
Il était une fois. Bon, désolé, petite parenthèse. Tout ce qui va suivre est bien réel. Non pas ma petite vérité personnelle, mon opinion étroite sur le sujet, mais la vaste et puissante réalité d'un ensemble de faits observés, mesurés, comparés, articulés, analysés, modélisés, et finalement discutés et critiqués, formant ainsi une somme de connaissances vérifiables et par là même, éventuellement, réfutables. Ainsi va la science, qui n'est qu'affaire de méthode, une méthode qui permet de nous décentrer, un pas de côté, et partant de là, de penser contre les apparences, et donc contre soi-même. Une aventure d'intelligence collective, toujours étonnante et parfois déroutante, tant ces apparences, même évidentes, peuvent facilement être trompeuses. Parce que s'il n'y avait que les apparences, qui pourrait sérieusement affirmer que c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse? Alors partons, accompagnés de centaines de chercheuses et de chercheurs du monde entier, géologues, sédimentologues, géochimistes, paléontologues et paléoécologues, toutes et tous, à mille lieues des projecteurs et des plateaux télé, hommes et femmes, simplement amoureux de réalité. Partons explorer une des pages les plus hallucinantes de notre histoire, l'histoire de la vie. Mais accrochez-vous, ça va secouer. Et donc, il était une fois. Il était une fois la Terre, notre bonne vieille Terre, mais un peu moins vieille. La Terre, il y a 260 millions d'années. La même qu'aujourd'hui, mais différente. Un unique continent, en forme de banane, centré sur l'équateur, tourné vers l'est. L'ensemble des continents actuels, mais réunis en un seul, gigantesque, la Pangée. Un seul continent donc, mais deux océans. La Pantalassa, couvrant à elle seule deux tiers de la surface de la planète, soit l'équivalent de tous les océans actuels. Et à côté de la Pantalassa, la Tétis, plus petite, formant le creux équatorial de notre grosse banane continentale. La Terre donc, il y a 260 millions d'années. Climat chaud, très très chaud. Pas de glace, ni au pôle, ni en montagne. Ambiance tropicale d'un cercle polaire à l'autre, par endroits très secs, ailleurs plus humides. Dans la Tétis, hiver comme été, la température de l'eau atteint les 35 degrés, d'où une évaporation intense qui alimente des phénomènes de méga-mousson sur les terres alentour. Dans ce contexte climatique bien plus chaud qu'aujourd'hui, des millions de formes de vie différentes peuplent océans et continents. Résultat de plus de 3 milliards et demi d'années d'évolution, elles constituent ensemble la biosphère. Une fine pellicule d'une vingtaine de kilomètres d'épaisseur, à peu près autant au-dessus qu'au-dessous du niveau de la mer. Au sein de la biosphère, le vivant, lentement mais sûrement, s'est adapté à ces conditions climatiques très très chaudes, au gré de mutations génétiques modifiant aléatoirement l'ADN de chaque être vivant, génération après génération. Toi ou moi. Chacune et chacun d'entre nous, êtres humains, sommes porteurs de mutations. 150 en moyenne au regard de l'ADN de nos parents, 130 environ venant du père et une vingtaine de la maman. Et il en est de même pour tous les autres êtres vivants, sans aucune exception. Hier, aujourd'hui ou demain, si on lui en laisse le temps, qui se mesure ici en millions d'années, la vie ne peut pas ne pas évoluer. Et c'est ainsi, par exemple, qu'il y a 260 millions d'années, d'un cercle polaire à l'autre dans les océans, d'énormes récifs coralliens abritent une formidable diversité animale et végétale, dans des conditions de température où presque aucun corail actuel ne pourrait vivre. Des écosystèmes luxuriants et colorés où se côtoient du beau et du laid, du gentil et du méchant, du paisible et de l'excité, du mangeur et du mangé, et où, comme toujours et partout, l'essentiel est invisible pour nos yeux. Parce que 90% de tout ce qui vit ou a vécu un jour sur Terre nécessite un microscope pour être observé. Oui, mais voilà. Dans ce monde où tout semble aller pour le mieux, Dame Gaïa, la Terre nourricière, notre unique vaisseau spatial, n'en déplaise à quelques fous furieux qui seraient internés depuis longtemps s'ils n'étaient pas milliardaires. Dame Gaïa, donc, s'ennuie. Et s'ennuyant, elle s'agite. Il y a 253 millions d'années, au nord-est de la Pangée, territoire correspondant aujourd'hui à la Sibérie, de gigantesques volumes de lave commencent à remonter des profondeurs de la Terre. Arrivée en surface, cette lave très liquide s'écoule, recouvrant petit à petit 5 millions de kilomètres carrés d'un kilomètre d'épaisseur de basalte. La moitié de la surface de l'Europe, trois fois la hauteur de la tour Eiffel. Ainsi se forment les trappes de Sibérie, le plus grand plateau basaltique continental jamais formé sur Terre. Cet épisode volcanique va durer un peu plus d'un million d'années. À chaque nouvelle éruption, la lave arrivée en surface apporte avec elle et libère dans l'air des dizaines de milliards de tonnes de dioxyde de carbone et de méthane, deux puissants gaz à effet de serre, mais aussi divers composés chimiques, comme par exemple du dioxyde de soufre, ou encore des acides sulfuriques, chlorhydriques, fluorhydriques. Et ainsi, petit à petit, l'atmosphère et les océans se chargent en molécules toxiques pour les êtres vivants. Et le climat terrestre, déjà très chaud, se réchauffe encore plus. Dans la Tétis, les températures atteignent par endroits les 50 degrés. L'eau, chaude et acide, ne s'oxygène plus, asphyxiant la vie marine. Sur les continents, la chaleur et l'acidité de l'eau de pluie sont telles que les végétaux ont de plus en plus de mal à photosynthétiser, et donc à pousser et à se reproduire, privant à leur tour les animaux de nourriture. Très lentement, mais inexorablement, des espèces commencent à disparaître, les unes après les autres, en débutant par les plus fragiles, les plus sensibles aux conditions environnementales. Une, puis une autre, et encore une autre. En quelques centaines de milliers d'années, 1%, 2%, 5%, 10% de tout ce qui vit sur Terre disparaît. Et pourtant, le pire n'a pas encore eu lieu. Le pire a lieu il y a précisément 251,9 millions d'années. Même si rien jusqu'à présent ne l'annonçait, les écosystèmes constituant la biosphère, les uns après les autres, s'effondrent, tels des châteaux de cartes déjà fragilisés par ces premières extinctions. Alors que, bon gré, mal gré, ces premières extinctions avaient pu être absorbées, entraînant tout au plus quelques réajustements démographiques. La disparition d'une énième espèce n'est plus compensée par les espèces toujours présentes. Et à ce moment-là, l'histoire change complètement de nature. Le problème n'est plus dans le réchauffement climatique ou l'empoisonnement de l'air et de l'eau. Le problème est l'extinction elle-même. Parce que les espèces d'un écosystème dépendent les unes des autres. La disparition de cette énième espèce devient de fait la cause directe de la disparition d'une autre. Puis d'une autre, puis encore d'une autre, formant une cascade, une avalanche auto-entretenue d'extinction que plus rien alors ne peut arrêter. Ainsi se déclenche la plus grande crise d'extinction de tous les temps, où au terme d'environ un million d'années de très lente érosion de la biodiversité, 90% de tout ce qui vit alors sur Terre finit par être emporté par d'immenses avalanches d'extinction, en l'espace de seulement quelques milliers d'années, un instantané à l'échelle des temps géologiques. Oui, mais 90%, ce n'est pas 100%. Et la vie ne disparaît donc pas totalement de la surface de la Terre. Par chance, quelques espèces survivent, peu nombreuses. Pas forcément les plus balèzes ni les plus performantes. Pas forcément les plus abondantes non plus. Mais assurément les plus résistantes et les plus résilientes. Mieux que ça. Des fantômes d'outre-tombe subitement réapparaissent. Des formes de vie sorties des radars depuis des dizaines, voire des centaines de millions d'années, ressurgissent d'on ne sait où, et reconstruisent des écosystèmes là où plus rien ne semblait pouvoir vivre. Et inversement, des groupes que l'on pensait jusqu'alors apparaître des dizaines de millions d'années plus tard sont en fait déjà là, discrets, mais bien présent au cœur de ces écosystèmes acidifiés, asphyxiés, empoisonnés, mais pas totalement désertés. Ensemble, Il forme l'articulation, la charnière écologique et évolutive improbable, mais bien réelle, entre un monde qui n'est déjà plus et un monde qui n'est pas encore. Héros malgré eux, ces survivants et ces précurseurs seront à l'origine d'une nouvelle biodiversité, résultat de l'évolution naturelle du monde vivant après la crise. Mais attention, là où seulement quelques milliers d'années d'avalanches auront été nécessaires pour faire disparaître 9 espèces sur 10, il faudra 1000 fois plus de temps, c'est-à-dire quelques millions d'années, pour que se reforme une nouvelle biodiversité comparable à ce qui existait avant la crise. Alors que nous dit cette histoire au regard du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ? Nous vivons depuis quelques milliers d'années, et plus encore depuis 2 siècles, et encore plus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans l'Anthropocène. Un moment où une seule espèce, la nôtre, est devenue une force géophysique majeure qui modifie très profondément les flux d'énergie et les cycles de matière à la surface de la Terre. Au cours du seul XXe siècle, notre présence et nos activités sont à l'origine directe de la disparition de plusieurs dizaines de milliers de formes de vie autour de nous. Un rythme d'extinction déjà supérieur au pire des moments des grandes crises passées, alors même que les avalanches d'extinction n'ont globalement pas encore commencé. Nous savons cela, et pourtant, nous refusons individuellement et collectivement d'agir en conséquence. Une attitude profondément irrationnelle, où nous nous punissons nous-mêmes, notre génération et celles à venir. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard pour bien faire. Mais quand commencerons-nous enfin à nous comporter en adultes responsables ?
Eh bien, merci Gilles. Alors tu nous donnes un peu froid, fais un peu froid dans le dos pour, avec ce récit. Mais moi, ce qui me fascine, c'est cette notion du temps. C'est pas tant tout à fait irréel. Tu nous parles de notre société en parlant des 70 dernières années. Et en même temps, tu parlais de donc qui fait des dégâts peut-être comparables au traumatisme qu'a pu connaître la Pangée il y a 1,9 million d'années. et donc c'est soit en 80 ans, on aurait fait des dégâts que la biodiversité aura mis plusieurs millions d'années à réparer.
C'est ça.
C'est hallucinant, quoi.
C'est exactement ça. C'est cette asymétrie entre les causes et les conséquences, finalement, et entre des pas de temps qui largement nous échappent, mais pourtant des pas de temps que nous contrôlons. Parce que, après tout, il y a 2 siècles, c'est quoi ? Une dizaine de générations ? Pas grand-chose, oui. Finalement, à l'échelle de l'histoire de la vie. Sinon qu'il y a 2 siècles, le monde autour de nous était extraordinairement différent. Et nous reviendrions à l'époque de la Révolution française. On aurait du mal à y retrouver nos petits. Ce qu'il faut, il me semble, arriver à réaliser, c'est que, effectivement, quand on parle de l'histoire de la vie, on raisonne sur des pas de temps qui sont phénoménalement longs pour nous. Moi, je prends souvent, j'ai pour habitude de prendre l'analogie suivante. Si nous avons 20 ans et que notre vie mesure 1 cm, ça veut dire qu'il faut mettre les 2000 ans d'histoire judéo-chrétienne dans 1 mètre. Et si on met nos 2000 ans d'histoire judéo-chrétienne dans 1 mètre, alors l'histoire que je viens de vous raconter est à 125 km de nous. Alors 125 km, ce n'est pas l'infini. Mais
c'est loin quand même.
Ramené à 1 mètre, on voit bien qu'on n'est pas dans les mêmes pas de temps. Et ce qui inquiète énormément les paléontologues, le paléontologue que je suis aujourd'hui, c'est ce constat que même au pire des moments des grandes crises d'extinction, celles dont je viens de vous raconter l'histoire à grands traits, mais d'autres également, on a probablement en tête ici la disparition des dinosaures, par exemple, il y a 66 millions d'années. Même dans ces moments un peu paradigmatiques, des moments de l'histoire de la vie où ça va vraiment pas bien, la violence de ce qui se vit à ce moment-là est moindre que ce que nous sommes en train de faire subir à la planète Terre aujourd'hui. Et ça, ça a été pour moi un grand déclic au début des années 2010, quand les premiers articles scientifiques sont sortis de plusieurs communautés scientifiques différentes pour montrer ça, pour montrer que la trajectoire actuelle était une trajectoire encore plus violente que ce que les paléontologues appellent les grandes crises d'extinction. Et ça, évidemment, ça interroge.
Alors pourtant, on avait déjà parlé de la sixième extinction. Ça, on va noter cette date de 2010 parce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a eu de telles révélations il y a si peu de temps.
Oui.
Alors, on pourrait culpabiliser en se disant « Ah, on ne sait pas », etc. Mais grosso modo, ça veut dire que les scientifiques n'ont pas eu connaissance de la gravité des faits depuis si longtemps. On connaissait les phénomènes, mais que ce soit aussi grave... c'est relativement récent et je pense que c'est important de le partager oui. avec nos contemporains.
Alors là où effectivement l'histoire s'accélère, c'est-à-dire que des messages d'alerte sur la biodiversité et sa trajectoire actuelle, on en a déjà depuis quelques décennies. Il existe même des écrits remarquables, par exemple de Lamarck, alors là on remonte à 150 ouais. ans, 180 ans, qui ouais. s'inquiète de cette situation, déjà, avec ses mots, avec ses concepts à lui, mais qui s'en inquiète. Dans la trajectoire et on va dire l'histoire moderne de la réflexion scientifique sur ces sujets, on va dire que c'est dans les années 1960 que les choses commencent à se préciser et que plusieurs écologues aux États-Unis, en Europe occidentale également, commencent à dire « Waouh, il y a des choses qui ne vont pas. Quand on regarde ce qui se passe dans nos forêts, ça ne va pas. » Mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Étonnamment, dans les années 1960, 1970, 1980, 1990, le mot qui nous dit la chose, le mot biodiversité, n'existe pas. Le mot biodiversité est inventé en 1988, dans le cadre des travaux préparatoires au sommet de la Terre de Rio. Un seul article scientifique, publié en 1988, utilise ce mot. Entre 88 et 92, il va y avoir une centaine d'articles scientifiques qui vont utiliser ce mot biodiversité pour décrire la diversité des formes de vie à la surface de la Terre. Et puis c'est finalement le sommet de la Terre de Rio en 1992 qui va diffuser à l'international et dans le grand public l'usage de ce mot-là. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour décrire un problème lorsqu'il n'y a pas de mot pour nommer ce problème ? Le mot climat existe depuis très longtemps et depuis plusieurs siècles, on l'utilise pour décrire ce que l'on entend encore aujourd'hui par climat, pas pour la biodiversité.
Ok, on pourrait effectivement, on va creuser, on a un petit quiz à vous faire tout à l'heure sur ce sujet. Mais c'est ça qui est important, c'est qu'il y a une forme de décalage. À la fois, on parle de deux choses qui nous paraissent communes et puis, par contre, la notion de la crise, de la gravité est relativement récente. Et donc, quelque part, c'est que nos contemporains ne culpabilisent pas de l'ignorer, quoi. Nous, dont toi, moi un petit peu, mais bon, surtout toi, vous avez fait des études là-dessus, vous baignez là-dedans depuis un moment, mais ça fait 15 ans que vous avez compris que c'était si grave. On avait, il y a 15 jours, un invité, Bruno Andréotti, qui nous a dit, il nous a décrit le moment, alors je ne sais plus si c'est durant l'émission ou après au café, le moment où, dans une réunion de scientifiques, ils sont aperçus d'un fait que les données qu'ils avaient dépassaient la marge d'erreur. Et donc pour eux, c'était une révélation, un petit peu comme à Cap Canaveral. Toute la communauté scientifique s'est levée et s'est dit « Waouh, c'est grave !» Mais bon, ça, on ne s'en rend pas compte. Alors, je vais passer la parole à nos invités, à nos émerveillés du soir. Qu'est-ce que ça vous fait penser, Soraya ? Qu'est-ce que ça te...
Je passe mon tour. Alors, j'avoue, ça a été beaucoup d'informations pour moi. Je suis quelqu'un de très clair. Donc, je sais qu'on a un gros problème d'écologie, qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Donc là, il a expliqué joliment, avec un beau timbre de voix. C'est comme une comptine, si je puis dire, en mettant un petit peu d'humour. Mais j'ai trop d'informations là, parce que la manière dont c'est détaillé, je...
Allègre FM 93.1.
Ça m'a laissé très perplexe. parce que je ne connais pas vraiment le cœur du sujet. Je le connais en surface, mais pas...
T'es un peu submergé par le message. Quoi.
Voilà, parce que là, il remonte très loin.
Ah bah, c'était le but du jeu.
Voilà, c'était le but du jeu. Moi, ça m'avait fait penser un petit peu, entre guillemets, à mes cours en primaire, les hommes préhistoriques, de là d'où on vient. Moi, j'ai retenu qu'on venait d'une petite bactérie dans l'eau, et puis les tyrannosaures, et puis tout ça. Donc, mais... je ne sais pas quel mot employer. Avec tout le respect que je peux avoir, est-ce que vous me comprenez ?
Mais complètement, bien sûr. Mais je pense qu'en fait, vous renvoyez à une réalité qui est complexe à gérer pour tout un chacun, y compris pour les gens dont c'est le métier, en fait.
Voilà.
C'est que on a perdu cette idée que nous sommes le résultat, nous, êtres humains, d'une histoire, d'une évolution, parce que les êtres humains n'existent pas sur Terre de toute éternité, et que ça fait à peu près 2 millions d'années maintenant que le genre humain existe sur Terre, et que nous autres êtres humains, en tant qu'êtres vivants, nous appartenons à la biodiversité, nous appartenons à la diversité du monde vivant.
On n'est que le fruit d'une très très longue accumulation.
Évidemment, alors au long de cette accumulation, au long de cette histoire, évidemment nous avons appris à faire des choses qu'aucun autre être vivant ne sait faire. Mais à y regarder d'un petit peu plus près, de nombreux êtres vivants autour de nous qui ne sont pas des êtres humains savent faire des choses que nous-mêmes sommes incapables de faire. Donc, il n'y a pas que les êtres vivants qui sont, j'allais dire, une exception à la nature. En réalité, toute forme de vie est à sa façon une exception.
Oui, je veux dire, il n'y a pas que les hommes qui sont une exception.
Exactement. C'est, encore une fois, la vie ne peut pas ne pas évoluer. Il ne peut pas ne pas y avoir de mutations dans notre ADN. Et ces mutations sont forcément, à un moment ou à un autre, la cause de changement, la cause de modification de ce que nous sommes, génération après génération. Et ça, on ne peut pas l'arrêter. Toute notre science, toute notre connaissance ne pourra pas éviter ça. Et donc, la question que vous posez, en fait, en tout cas, c'est comme ça que je la reçois, c'est... Comment est-ce que nous, êtres humains, nous sommes capables, aujourd'hui ou pas, de nous penser, de nous repenser à l'intérieur de la nature qui nous a fait naître ?
Alors Nicolas, est-ce que tu as une idée ?
Nicolas, je ne sais pas, en tout cas Lucas.
Lucas, excuse-moi, là, c'est pareil, j'étais pris entre deux plaques tectoniques, excuse-moi.
Tout va bien. Non, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est justement la mise en perspective. C'est-à-dire que ça nous replace, je pense, à notre place, justement. C'est-à-dire qu'on est tellement ethnocentré, on ne pense qu'à notre présent, et puis peut-être à notre futur, et puis peut-être à nos performances. Et puis aussi, on s'est quelque part créé des objectifs de vie qui n'ont plus, absolument plus rien à voir avec tout ça.
C'est ça.
Et donc, effectivement, on a perdu quelque part... la possibilité de penser les choses dans leur ensemble. Et aussi, on a beaucoup travaillé à se séparer justement de cette nature qui maintenant nous renvoie une promenade au bord de la Marne. Mais en vérité, nos trottoirs sont de la nature, le caniveau, la voiture, le brin d'herbe. C'est pas ce petit truc vert qu'il y a au milieu de la grisaille, c'est bien tout un ensemble dont nous faisons absolument partie et dont nous sommes absolument dépendants. Et en fait, d'entendre ça, de nous mettre dans cette perspective, de nous remettre à notre place, ben, moi je pense que c'est une forme aussi de... Je pense que c'est par... cette dynamique qu'on peut aussi retrouver une forme de sagesse, déjà de se rendre compte à quel point nous ne sommes pas si puissants que ça, que nous ne sommes vraiment pas grand-chose, qu'une inondation a vite fait de mettre tous nos plans par terre, un incendie, les tectoniques des plaques de notre esprit. Enfin voilà, on est vraiment pas grand chose et je pense que d'avoir cette sagesse là, elle nous permet de Ben en fait, c'est cette sagesse-là qui va nous permettre d'agir en notre nom, de se rendre compte de ce que ça veut dire, de notre responsabilité. Aimer la géographie, aimer avoir la curiosité pour de la géographie, pour de l'histoire, pour en fait toutes ces sciences, mais en fait qui sont aussi des histoires avec, avec plein de petits H qui forment une histoire avec un grand H, ben, ça nous remet d'équerre, quoi. Et je pense que c'est ça qui nous permet aussi justement de trouver des mots pour comprendre et puis pour nous placer nous-mêmes dans une dynamique.
Ouais. Alors la question qui me brûle les lèvres, est-ce que ce type de récit, alors peut-être à compléter ou autre, peut vous inspirer dans vos pratiques artistiques, hein? Est-ce que tu te vois traiter ça, parce que je sais que tu fais des one-man shows, donc qui méritent le déplacement, on en parlera, tu nous citeras tes spectacles tout à l'heure, est-ce que tu te vois raconter une histoire de fossiles comme ça, cette extinction, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a quand même de la matière à théâtre.
Ah bah, tout à fait, enfin, c'est une matière à expression énorme. C'est-à-dire que les mots sont des chemins pour comprendre, mais aussi les gestes sont des chemins pour comprendre. Le sensible, dans son entièreté, est rempli de chemins pour comprendre, pour entrer en empathie, pour justement combler cette séparation qui a été faite entre nous et la nature. Effectivement, je me vois tout à fait... très très bien faire raconter ça, enfin voilà, le plateau
texte, Gilles, tu vas voir le plateau. Par contre, excuse-moi de te couper, Lucas, ouais, j'étais impressionné par l'aisance et c'était beau, hein, oui. Charlotte, vas-y, donne-nous ton avis.
Ouais, c'était très très c'était... bien interprété, ce texte. Oui. Qui fait froid dans le dos par la conclusion. Et puis ça nous renvoie que là, depuis les années 60, c'est nous qui créons un environnement toxique par tous les rejets qu'on fait. Mmh. Et là, c'est que le début, on est en train... Heureusement, il y a des journalistes et tout qui éclairent.
Il y a des scientifiques arrivent, aussi.
Voilà, qui relaient la parole des scientifiques parce que qui est inaudible. Et par exemple, tout ce qui est par rapport au PFAS, enfin... On a créé volontairement, là, c'est nous-mêmes qui nous empoisonnons, c'est pas l'environnement avec les pluies acides qui nous empoisonne, c'est nous-mêmes qui créons les conditions pour qu'il y ait à nouveau des trucs délétères.
Tu nous as dit que Gaïa s'ennuyait, elle a commencé à faire de... Bon, c'était naturellement, tout le monde l'aura compris, c'était une blague. Mais par contre, ce qui l'est moins, c'est que, par contre, c'est l'humain avec sa société et puis son économie et puis... ces productions industrielles qui produisent les pluies acides dont tu parlais, qui ont décimé tout. Alors, c'est quoi ces bestioles qu'il y avait il y a 250 millions d'années? Alors, moi, j'avais en tête des ammonites, des trilobites.
Oui, c'est ça. Comme dans
le Seigneur des Anneaux.
Mais oui. Exactement.
Alors, effectivement, ben, par exemple, les trilobites sont un des grands perdants de l'histoire que je viens de vous raconter, hein, puisque les dernières espèces disparaissent au moment de cette grande crise d'extinction, il y a 251,9 millions d'années. On n'en retrouve pas... Ah oui, oui, oui. Et puis c'est des centaines et des milliers de mesures radiométriques qui ont été faites pour obtenir cet âge-là, et c'est extrêmement bien calibré maintenant. Ouais. Donc les trilobites, par exemple, font partie des perdants, de la même façon que les dinosaures perdront la bagarre quelques dizaines de millions d'années plus tard, finalement. Et puis, par exemple, les ammonites, il en existe avant la crise, il en existe pendant. En l'état actuel des connaissances sur les milliers d'espèces qui existaient avant la crise, on pense qu'il y en a au moins deux, voire trois espèces qui survivent à la crise. Et à partir de ces deux ou trois espèces qui survivent à la crise, eh bien, en quelques millions d'années, une nouvelle diversité d'ammonites va se former et va à nouveau envahir tous les océans. Mais je reviens sur un point important qui est encore une fois cette asymétrie de l'histoire. C'est-à-dire que là où la destruction du monde vivant peut se faire très rapidement, à l'échelle des temps géologiques, pour le coup, la reconstruction d'un monde vivant est toujours un processus extrêmement lent. Et ça, les cinq grandes crises d'extinction que les géologues et les paléontologues étudient au cours du temps sont toutes très claires là-dessus. C'est-à-dire que là où il faut quelques milliers d'années pour faire disparaître 60, 80, 90% de tout ce qui vit sur Terre, il faut toujours, à minima, quelques centaines de milliers d'années, voire quelques millions d'années, pour reformer par la voie naturelle de l'évolution, une nouvelle biodiversité. Et ça, ça nous dit quelque chose de très puissant pour le monde d'aujourd'hui, pour l'Anthropocène. C'est que la trajectoire d'extinction dans laquelle nous sommes n'est pas, en aucun cas, un projet d'humanité. Parce que si, effectivement, on traverse cette histoire-là, nous, êtres humains, ne connaîtrons pas plus dans 1000 ans que dans 10 000, que dans 100 000, que dans 1 million d'années, ne connaîtrons pas une biosphère normalement diversifiée. Et ça, c'est une situation qui est très différente avec le climat.
On pourrait bien être les trilobites de l'affaire. Quoi.
Oui, ou pas. Ou pas. Hein, là, pour le coup, le scientifique n'a pas grand-chose à dire sur cette affaire. Sinon que, s'il fallait catégoriser le monde vivant entre les formes robustes et susceptibles de bien résister à une catastrophe comme celle que je viens de vous raconter, et les formes beaucoup plus fragiles et dépendantes d'autres espèces pour pouvoir exister elles-mêmes, assurément, l'espèce humaine se classe dans la seconde catégorie. C'est-à-dire que, quand bien même on n'en a pas du tout conscience, nous dépendons de centaines de milliers de formes de vie autour de nous qui, si elles ne sont pas là, mettent très gravement en danger l'espérance d'existence de l'humanité. Et ces formes de vie ne se limitent en aucun cas aux quelques espèces que nous consommons. Parce que notre bol alimentaire aujourd'hui est d'une pauvreté absolument affligeante. Vous prenez 5 espèces animales et 4 espèces végétales, vous avez 80% de tout ce que mange l'humanité. On n'a jamais eu, nous, êtres humains, une alimentation aussi peu variée à l'échelle globale, à l'échelle de l'humanité, que ce que nous avons aujourd'hui. Donc la problématique de l'extinction n'est pas en réalité dans ce que nous mangeons. La problématique de l'extinction est par exemple dans les centaines de milliers de formes de vie microscopiques qui vivent dans nos sols et qui dépolluent l'eau de pluie qui finalement arrive dans les nappes phréatiques que nous boirons un jour ou l'autre.
Et ça ne pourra pas se remplacer par des stations de dépotabilisation.
En aucun cas. Les ordres de grandeur n'y sont, mais pas du tout. De la même façon que l'idée que si l'eau des nappes phréatiques n'est plus potable, on désalinisera de l'eau de mer. Enfin, dès qu'on met les ordres de grandeur sur la table, ça ne flotte pas une seule seconde. Il faudrait l'équivalent de 10 fois tout ce que l'on a en énergie sur Terre pour pouvoir dessaler les quelques milliards de litres. Donc rien de tout ça. En fait, si on se prive de services écosystémiques naturellement rendus par la biodiversité, si on se prive de ça, aucun artefact technoscientifique ne pourra les remplacer. Pas une seule seconde.
Donc le biomimétisme, pour toi, ça ne peut pas être une solution de remplacement. En tout cas, ça peut avoir...
À la marge. Mais ça ne...
Ça peut pas être... Alors je ne sais plus quel est ce scientifique sur grenouille qui dit qu'il veut désextincter les espèces. Alors c'est quoi ce concept qui me paraît moins hallucinant, quoi?
Alors c'est l'idée que dans des ossements ou dans des animaux conservés dans des musées, des animaux morts, parfois appartenant à des espèces qui ont disparu, il y a de cela quelques décennies, quelques siècles, on peut aller chercher de l'ADN à la façon de Jurassic Park et reformer des individus de ces êtres vivants. C'est d'une débilité affligeante pour la simple et bonne raison que l'ADN est une molécule extrêmement fragile qui, dès qu'un être vivant meurt, se casse en des millions et des millions de tout petits morceaux. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Hein. L'ADN fossile que l'on retrouve aujourd'hui, par exemple dans des mammouths congelés, par exemple chez des êtres humains également, des hommes de Néandertal, par exemple, et des femmes de Néandertal, bien sûr, ou dans des chevaux fossilisés depuis quelques milliers, dizaines de milliers d'années. Ce que l'on trouve, ce sont des petits morceaux de molécules qui font entre, on va dire, 100 et 1000 paires de bases. Alors, c'est très facile. L'ADN, c'est comme un grand collier fait de perles. Nous, par exemple, notre ADN est un collier qui est fait d'un peu plus de 3 milliards de perles. Et bien, dès que notre ADN se détruit, dès que nous mourons, notre ADN se détruit et se fragmente en petits morceaux de collier de 100 à 1000 perles. Et donc, et tout ça se met dans un joyeux désordre à l'intérieur d'un corps en décomposition. Et donc, ce qu'il faut imaginer quand on veut ressusciter, entre guillemets, une espèce, c'est que ces millions de petits morceaux d'ADN de quelques centaines de paires de bases, on va être capable de tous les recoller les uns derrière les autres pour refaire l'ADN tel qu'il était initialement chez cet être qui vivait il y a quelques milliers d'années.
Donc, alors, quand on nous jette comme ça le terme d'ADN, d'analyse, etc., au final, la réalité scientifique est beaucoup plus complexe. Cette image du collier, je pense qu'elle est très bonne. Je l'avais jamais entendue et elle me va très bien. Je crois que je vais pouvoir la réutiliser. Alors, Souraya, vas-y.
Vas-y. C'est quoi la question?
Est-ce que ça te donne envie de peindre quelque chose? Est-ce que ça peut t'intéresser d'aller regarder les fossiles d'un autre œil?
Alors, moi déjà, comme information que j'ai à donner, c'est que je suis déjà dans le upcycling. Moi, avec du vieux, je fais du neuf. J'aurais pas cru, parce que même à l'époque, il fallait toujours m'habiller avec du neuf, toujours des choses neuves. Et aujourd'hui, je fais en sorte, involontairement, par rapport à mon art, de prendre du vieux, d'essayer de sauver, de réparer, de sauver un petit peu la planète à ma manière. Alors après, aller peindre des mammouths et des tyrannosaures, je cache pas que non. C'est pas dans mon fil conducteur du tout. Mais pourquoi pas Il faut que j'y réfléchisse. Voilà, parce que là, ça. Les fossiles, peindre des fossiles, déjà, j'ai du mal à vendre mes tableaux tous les jours. Alors, qui c'est qui va acheter des fossiles? Par contre, excusez-moi, pourquoi pas travailler, faire des tableaux et, à ce sujet-là et justement représenter, et pourquoi pas les proposer à des musées, etc. Donc, il y a un terrain.
Alors moi, du coup, j'aimerais rebondir.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Comment est-ce que, en artiste, on peut montrer ce qui n'est plus? On peut montrer le vide, on peut montrer l'absence, on peut montrer la disparition. Montrer ce qui est, je veux dire, il suffit d'avoir du talent pour y arriver. Montrer ce qui n'est pas.
Ce qui n'est plus.
Ce qui n'est plus. Alors là, poser une colle.
Eh oui.
Vous me posez une grosse colle, parce que moi, je suis dans l'art contemporain, je fais du art paper, je mélange des photos, je dessine, je fais des choses, je peins sur des vitrines, je peins sur du vêtement, donc je ne suis pas encore sur cette phase.
Oui. Mais je pense que là...
Mais il y a des artistes qui sont sur cette phase.
La difficulté, pour moi, renvoie à une autre difficulté. C'est comment est-ce que, finalement, qu'on soit artiste, ou qu'on soit scientifique, ou qu'on soit journaliste, ou peu importe, qu'on soit juste être humain, citoyen, citoyenne. Comment est-ce que nous pensons et nous nous approprions l'absence?
Écoute, on va faire une petite pause musicale.
C'est
pour
la philosophie, là.
On est toujours dans les arènes de l'écologie, mais en train de se poser des questions, je ne vous dis pas. Donc, sur Aligre FM, de toute manière, on aime bien les questions philosophiques également. Mais on va nous passer une petite musique pour reprendre une petite respiration.
We'll be right back.
Eh bien Armand, tu nous dis qui était ce chanteur de rail?
Cheb Azni.
Cheb
Azni. Azni.
Voilà, bah écoutez, vous êtes de retour dans les arènes de l'écologie sur Aligre FM. Et bon, voilà, on va entamer la procédure d'atterrissage. On va pas relancer la discussion l'extinction. Vous allez pouvoir nous parler.
On était sur le vide là.
Voilà, c'est ça. Ça nous a un petit peu laissé bouche bée. Oui. Mais par contre, on va reprendre. Ouais. Alors, Lucas.
Moi, j'avais.
Mais je voulais que nous annonces ton actualité de spectacle.
Alors, moi là, je vais pas.
Quand est-ce qu'on peut te voir? Je crois que tu es au théâtre de l'école alsacienne, c'est ça?
Oui. Alors, je vais mettre en scène Macbeth.
Mais
Macbeth en scène. Donc
ça va être joué quand?
Ça va être joué du 27 au avril au 4 mai.
D'accord, bah c'est bientôt.
C'est très bientôt. Mais moi, j'avais juste envie de dire quelque chose par rapport à ça. Ouais. Par rapport à la question de comment évoquer le manque, évoquer le vide. Je pense notamment à Beckett, avec En attendant Godot, ouais, qui lui fait dans cette attente fait exister quelqu'un qui ne vient pas. Et donc qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas en rentrer en relation? Et je finirai juste sur quelque chose, c'est que il me semble que là où on peut exprimer des choses qui justement ne trouvent pas de mots, c'est dans le sensible. Mmh. Et que je pense que ce que vous lisez à travers ce dans quoi vous lisez toutes ces vérités-là, eh bien en fait, je pense qu'on peut le donner à voir par le mouvement, on peut le donner à voir justement par la relation, parce que la relation, elle implique une réciprocité, et que s'il n'y a pas en face, alors on fait voir le manque.
Bon, bah, Lucas, je suis ravi. ça t'a inspiré, on va faire très vite. Soraya, t'as une actu à nous donner?
Moi, actuellement, je fais de la peinture sur vitrine au restaurant italien Giacomo, le Giacomo à Nogent. Donc, je développe ça.
C'est à côté du jardin des jardins tropicaux à Nogent-sur-Marne.
Je viens de découvrir Nogent-sur-Marne. Voilà. Nogent-sur-Marne m'a super bien accueilli. Donc, bon. Voilà. Et puis, je prépare une exposition assez particulière, j'en dis pas plus, pour le mois de décembre. Pour
d'accord. Eh bien, avec grand plaisir, on pourra l'annoncer. Voilà. Écoutez, Charlotte, des articles à venir, j'espère. Et puis, Gilles, tu vas nous faire des cours. On peut te retrouver en ligne, je crois, pour voir tes cours.
Une toute petite chaîne YouTube dans laquelle il y a quelques-unes de mes conférences. Pas voilà. Toutes, parce que ça consomme beaucoup de carbone, donc j'en fais le moins possible.
Voilà, voilà, voilà. Puis comme il est vice-président, il a autre chose de et l'université, puis, il n'a pas autre voilà. chose à faire, si j'ai bien compris. Et puis, nous, la semaine prochaine, on continuera notre cycle sur la voie de la biodiversité, on aura Marie-Charlotte Anceste. Alors elle va nous parler elle va nous raconter une autre histoire de biodiversité, ce sera celle des pollinisateurs des cassis de Bourgogne, qui Donc, on risque de voir disparaître.
C'est quoi?
Ah bah, il faudra écouter. Donc, si on fait pas gaffe, eh ben, on va aller.
J'ai l'impression d'entendre des chinois là.
Eh bien non. Donc, on va sauver le Kir grâce aux osmies de Marie-Charlotte. Mais bon, on vous en dira la
le
plus.
Kir et le smir, d'accord. Okay,
voilà, c'est d'accord. Ça. Mais c'est ça la biodiversité, le lien entre l'apéro et puis la biodiversité. Donc, à la semaine prochaine.
Merci de m'avoir accueilli.
Voilà, on
Merci
vous souhaite
beaucoup.
Une bonne semaine.
Merci.
Merci, au revoir.
À bientôt.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.